en compagnie de la bande à Mono.
Merci beaucoup, Claire Savageant. La bande à Bono revient avec Sandra Freeman, Arnaud Vivian, Franck Anézé et Hervé Pochon avec un nouveau feuilleton radiophonique qui se déroule un soir de premier tour. Cette deuxième heure de la bande à Bono tournera autour du nouveau livre du philosophe Bernard Stiegler, co-signé avec Marc Répond et intitulé « De la démocratie participative, fondements et limites ». Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour,
bienvenue, merci d'être avec nous une fois de plus. Vous sortez cet essai donc chez Mille et Une Nuits, ça coûte 10 euros, c'est un petit livre passionnant avec Marc Répond qui est un de vos amis de votre association qui s'appelle Ars Industrialis. Je redonnerai le site internet de l'association tout à l'heure. Ce livre s'intitule « De la démocratie participative, fondements et limites ». Donc c'est le moins qu'on puisse dire, il est en pleine actualité. Mais de toute façon, même s'il n'y avait pas eu ce livre, on avait envie de vous entendre. Bernard Stiegler, à cause de ce que vous écrivez depuis de nombreuses années. Donc vous avez beaucoup parlé de la crise de la démocratie, vous avez beaucoup parlé de la crise de la représentation, vous êtes l'un des rares philosophes en France à vous être attaqué, mais vraiment à bras-le-corps à ce qui s'est passé le 21 avril 2002. Donc pour commencer notre discussion, je vous suggère deux chiffres, participation record, 84,6, et le score de Jean-Marie Le Pen, donc en très nette baisse, 10,51. Est-ce que ces deux chiffres, très simplement, vous font plaisir ?
Pas du tout.
Alors expliquez-nous pourquoi.
Pas du tout, parce que je pense que cette mobilisation politique, qui évidemment en soi ne peut que réjouir dans l'abstrait, mais elle est le symptôme d'une panique, d'un processus tout à fait... avant-coureur, à mon avis, de grosses difficultés, de ce que j'appelle un phénomène de décrochage politique d'abord, dans un premier temps, et bientôt, je crains, de décrochage économique grave. Et d'autre part, bien sûr qu'on ne peut que se réjouir de voir Jean-Marie Le Pen redescendre à 11%, mais c'est au prix d'une extrême droitisation de tous les représentants politiques, y compris de la gauche.
Ce que nous disait Alain Guiraudy dans la première partie de cette émission.
Et donc, ça n'a absolument rien de réjouissant. Ça, c'est une dilution du discours de Jean-Marie Le Pen. On a l'impression que Madame Royale a repris à son compte le discours de Nicolas Sarkozy, qui lui-même a repris à son compte le discours de Jean-Marie Le Pen, et que tout ça est en train de se... Voilà. Et donc, il n'y a plus de repères du tout. Alors là, pour le coup, on n'arrête pas de parler de repères et de valeurs, mais alors là, on se demande vraiment où sont les repères et les valeurs, et il n'y a que des symptômes. Donc, moi, cette campagne m'a, je dois le dire, beaucoup, beaucoup inquiété.
Vous l'écrivez, vous la trouvez minable.
Je la trouve minable et en plus misérable. Elle est la campagne de la misère, mais de la misère de toutes les couches sociales, pas simplement de la misère économique de tant de gens qui sont dans une effective misère économique devient honteuse et intolérable, mais la misère intellectuelle, la misère politique, qui est quelque chose de stupéfiant. Alors,
et en quoi je vois pas bien cette misère. Moi, je l'ai pas vu du tout. Donc je suis un peu étonné. Moi, j'ai vu au contraire une campagne qui a visiblement passionné les Français, puisque ils sont allés voter en masse. Donc on a du mal à comprendre en quoi, dans l'abstrait, ça serait dangereux le vote, la démocratie. On a l'impression que c'est le geste, au contraire, un geste de santé républicaine.
Mais bien sûr, moi aussi, je me suis réjoui. Et je me réjouis du fait que les Français aillent voter, ça c'est évident. Mais il faut pas prendre une question isolément. Ce qu'il faut, c'est interpréter non pas simplement le fait que 80 quelques pourcents de Français aillent voter, ça c'est une très bonne chose, mais c'est interpréter l'ensemble du processus dans lequel ça s'inscrit.
Oui, parce que vous rappelez dans le livre que l'abstention en 2002, c'était plus symptomatique d'une forme de désaffection des citoyens. Est-ce que vous avez l'impression que cette participation massive est une forme de retour de l'affect et que du coup il n'y a pas
c'est
la place pour la pensée
l'affect, dont parle très très bien d'ailleurs j'ai qu'il a donné au journal Le Monde
hier, l'édition d'hier, oui.
De l'édition d'hier, que je trouve un texte tout à fait remarquable, extrêmement intéressant, que j'invite les auditeurs à lire sur le site du Monde. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit, mais en tout cas je pense que les vraies questions sont posées. C'est c'était une campagne de l'affect. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il y a eu une psychologisation de la campagne, qu'on n'a pas parlé de politique, on a parlé de psychologie. Évidemment, cette campagne est très intéressante. Hein. Ça va être un des grands sujets des historiens du 21e siècle, hein, de la France, c'est certain. C'est certain que là, il s'est passé...
C'est un moment historique. C'est un changement d'époque,
oui,
de
oui,
toute évidence.
Tout à fait évident. Hein, tout à fait. Alors, la question, c'est pas de savoir si on va créer une 6e République ou je sais pas quoi, mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est la fin de la 5e République telle que l'a voulu le général de Gaulle. Elle est liquidée une bonne fois pour toutes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quand même dans l'UMP un certain nombre de gens qui sont malgré tout très inquiets, même s'ils se sont ralliés à M. Sarkozy. Alors, cela étant, ce qui domine dans cette... ce qui a dominé cette campagne et ce qui va continuer à dominer le deuxième tour, je le crains. J'espère que ça peut changer, mais j'y crois pas beaucoup. Ça va être l'affect et la psychologie. Pourquoi ? Parce qu'en effet, les Français souffrent affectivement et psychologiquement. Évidemment, je l'avais déjà dit dans un livre qui s'appelle « La télécratie contre la démocratie », si Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont ramassé, et ils ont tous les deux fait des scores extraordinairement forts, s'ils ont pu atteindre ces sommets, c'est bien entendu parce qu'ils touchent à quelque chose du réel. Sinon, ce serait pas possible. Autrement dit, il s'agit pas du tout. Moi, mon problème, c'est pas du tout de condamner Monsieur Sarkozy, Madame Royal ou je sais pas qui. C'est d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes qu'ils déclenchent, et aussi de critiquer ces mécanismes, parce que je crois que ces mécanismes sont extrêmement dangereux. Ce sont des mécanismes pulsionnels. Ce sont des processus qui fonctionnent exclusivement sur le court terme. Et nous sommes dans une société qui privilégie le court terme absolument dans tous les domaines. La finance n'investit qu'à court terme, à très court terme.
Vous voulez dire que le citoyen serait devenu un être pulsionnel uniquement, c'est ça ?
Mais c'est plus un citoyen, c'est un consommateur. C'est plus un public, c'est une audience. Je dis ça et je me mets dedans. Nous sommes tous pris dans ce processus. Parce qu'il y a des gens qui me disent parfois, ah, vous méprisez les gens. Mais non, je méprise pas les gens. Je souffre moi-même de ces processus-là. Mais nous sommes dans une économie politique, une économie également libidinale, au sens où, parce que moi je convoque beaucoup Freud dans toutes ces affaires, et comme le disait Frochasson, on a affaire à de la psychologie ici, c'est très important de raisonner en convoquant les grandes pensées de la psychologie du XXe siècle. Nous sommes dans une économie du court terme où tout est dominé par l'immédiateté. Alors, les investisseurs qui mettent de l'argent dans une société veulent un retour sur investissement à moins de 18 mois. Le consommateur veut avoir son truc tout de suite, et la campagne électorale a été menée essentiellement par pratiquement tous les acteurs, sauf François Bayrou. Et je tiens à le dire, c'est pour ça qu'il a ramassé, parce qu'il a fait aussi un score formidable. Et c'est tout à fait surprenant, ce score qu'il a pu faire. C'est parce qu'il a tenu un discours de lutte contre ce processus du court terme, de court-termisme généralisé.
De quoi? Mais c'est cette démocratie représentative dont vous parliez déjà dans ce précédent livre, que vous opposez à la démocratie participative, c'est ça?
Alors moi, je ne veux pas opposer la démocratie participative et la démocratie représentative. Dans ce livre que nous avons écrit, chacun un chapitre, Marc Crépon et moi, en fait, ce sont deux conférences. Enfin, c'est une conférence que nous avons faite tous les deux.
Au Théâtre de la Colline.
Au Théâtre de la Colline, il y a 3 mois. Nous essayons nous prenons très au sérieux cette question de la démocratie participative, mais en disant, alors d'abord Marc fait des analyses extrêmement intéressantes sur l'histoire des idées de la démocratie depuis le 19e siècle, et resitue un petit peu toute la réflexion moderne sur la démocratie, parce que le concept de démocratie est un concept grec, un concept antique, mais on se réfère généralement à l'Antiquité, mais il y a toute une histoire moderne de démocratie dont on fait finalement assez peu l'histoire. Cela étant, ce que j'essaie de montrer avec Marc Crépon, c'est que, d'abord, parler de démocratie participative, c'est un pléonasme. Ça ne veut rien dire, une démocratie participative. Ça veut dire monter en haut ou descendre en bas. Donc, c'est ne pas parler français. Sauf si on pose que la démocratie n'est plus une démocratie. Et qu'en fait,
vous le pensez, Bernard?
Ah, moi, je pense qu'on n'est plus. C'est-à-dire qu'elle est devenue ce que vous écrivez, c'est que peut-être notre démocratie telle que nous l'avons connue est devenue ou en passe de devenir une oligarchie.
Elle est une télécratie qui conduit à l'oligarchie. Qui conduit à l'oligarchie, c'est-à-dire à ce que j'appelle des courts-circuits dans l'individuation. Alors, j'emploie des mots un petit peu techniques de la philosophie, mais et là, je suis obligé de faire une petite digression, si vous permettez. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu humain ? Qu'est-ce qui distingue un milieu humain d'un milieu animal ? Il y a beaucoup de gens qui font de l'éthologie, qui comparent les fourmis, les abeilles, les babouins, les bonobos et les êtres humains. Qu'est-ce qui fait qu'un milieu est humain ? C'est qu'il y a du symbolique. et que le symbolique est indépendant, se développe indépendamment des individus qui sont dans ce milieu symbolique, mais indépendamment jusqu'à un certain point, bien entendu. Par exemple, en ce moment, je parle. Nous parlons. Là, je parle. Vous m'écoutez aimablement, les auditeurs aussi, vous allez reprendre la parole, les auditeurs ne peuvent pas la prendre, mais ils la prendront peut-être sur le site internet, etc. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est très important, ces aspects des choses aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, dans un milieu symbolique, celui à qui je m'adresse, je ne peux m'adresser sérieusement à lui que si je pose en principe qu'il peut me répondre. Qu'il a voix au chapitre, qu'il a le droit à la parole, qu'il comprend ce que je dis, dans la mesure où il peut me répondre, et ne pas être d'accord avec moi, et me critiquer. Autrement dit, il a une compétence de production symbolique qui pose ce processus au niveau de l'organisation politique dans son ensemble. Alors, au XXe siècle, s'est produit un phénomène que j'appelle de dissociation ou de désymbolisation. Pourquoi ? Parce que les médias de masse ont progressivement installé des milieux symboliques qui sont unilatéraux. Et où les gens ont progressivement perdu la possibilité de participer à la production de leur milieu symbolique. Et ça donne, par exemple, un langage qui devient complètement affolant de vulgarité. Les gens savent plus faire les accords. Enfin, les gens savent plus parler. Et pour pouvoir faire peuple, les gens qui passent à la radio, à la télé, etc., parlent comme ça. Ils se mettent à être vulgaires. Ils se mettent à adopter ces... Un jour, moi, j'ai lu dans l'Humanité...
Les politiques aussi?
Les politiques aussi, les tout premiers, bien entendu, les tout premiers. Et tout le monde attend. Et moi aussi, un jour, je me suis surpris, je faisais un cours à l'université, et un jour, je me suis surpris à faire ça. C'est-à-dire à essayer de flatter mes étudiants comme si ça les flattait. Et je me suis aperçu d'ailleurs à leur tête qu'ils étaient choqués.
C'est-à-dire le côté, je me mets au niveau, ce qui serait donc pour vous, Bernard Sigler, finalement le comble du mépris.
Oui, c'est le mépris.
De l'auditoire, justement.
C'est le mépris, c'est le fait qu'on prend les gens pour des imbéciles, en effet. Qu'on considère, et qu'on ne parie pas sur leur intelligence, c'est-à-dire sur leur détermination, sur leur patience, sur leur endurance et sur le temps. On ne fait que spéculer.
Mais Bernard Sigler, quelle dose d'affect vous mettez dans cette intelligence? Parce que l'intelligence, ça fonctionne aussi avec l'affect.
Ah mais l'intelligence, pour moi, l'intelligence, c'est de la sublimation. Donc je n'oppose pas du tout l'intelligence, l'affect et la raison. D'ailleurs, je l'ai écrit dans un livre que j'ai commenté ici, enfin dont j'ai parlé dans cette émission. La raison, ce qu'on appelle la raison, ce qui traduit le mot en français, le latin ratio, mais aussi le grec logos. La raison, en français, ça veut dire le motif. Donc l'affect. Donc ce qui vient m'affecter. Moi, je n'oppose pas l'affect et la raison. En revanche, je dis que les affects, ça se travaille. Et que un affect, ça se sublime, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire sublimer ses affects? Ça veut dire les transformer en puissance sociale, en investissement social, en différement dans le temps de mes investissements. Et donc, je n'oppose pas les deux. Mais en revanche, je considère que aujourd'hui, si la souffrance est effectivement ce qui a dominé cette campagne électorale, c'est ça qui a dominé, en effet. Et c'est là que l'article, l'entretien de Rochasson est très intéressant, parce qu'il parle de ça. Il dit, la souffrance et les valeurs se sont substituées aux idées et au combat économique.
La souffrance et les valeurs.
La souffrance et les valeurs.
D'ailleurs, je pense que Nicolas Sarkozy, quelques jours avant le premier tour, a déclaré, maintenant, ce sera une question de valeur.
Oui.
Ça sera un choix de valeur.
Il l'a redit hier, d'ailleurs, je crois.
Il l'a redit à gauche aussi, d'ailleurs.
Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est l'indice de quoi? Qui est le symptôme, plus exactement, de quoi? D'une maladie. Nous vivons une très grave maladie, mais pas simplement en France, et pas simplement en Europe, dans le monde entier. Mais je pense que la France souffre peut-être plus que la moyenne en ce moment. Et cette maladie, c'est une maladie du désir. C'est une maladie qui tient au fait que progressivement, l'exploitation de la libido des consommateurs qu'on a systématiquement sollicité a conduit, par exemple, à la désidentification des enfants par rapport à leurs parents, parce que les techniques de marketing visent à produire la destruction ou le détournement du processus d'identification primaire aux parents vers les produits de la consommation, vers les émissions de télévision, vers les jeux vidéo, etc. Et ça produit d'énormes problèmes psychologiques très graves.
Mais ça n'arrive pas dans toute génération, ça, Bernard Sigler?
Non, c'est tout. Non, ça n'a... Qu'il y ait dans toute génération des problèmes au niveau de ce qu'on appelle l'identification aux parents, ça, bien entendu, ça s'appelle le complexe d'Œdipe dans la langue de Freud.
Et c'est comme ça qu'un adulte se construit.
Bien entendu. Mais, dans notre société, c'est une exploitation industrielle qui consiste à détourner la libido de l'enfant, qui normalement se tourne vers ses parents et qui, à un moment donné, va s'y opposer, vers des processus de consommation, vers des processus de socialisation orchestrés par le marketing. Et du coup, il n'y a plus de conflit avec les parents. Mais du coup, il n'y a plus de socialisation, il n'y a plus d'individuation de l'individu. Et donc, il y a des problèmes qui se posent de désindividuation et de perte d'identité. À partir de là, on peut prôner un ministère d'identité nationale. C'est sur ces mécanismes-là que se développent ces processus-là. Alors, moi, ce que je crois, c'est que on peut faire ce qu'on veut, on peut combattre Monsieur Sarkozy, Madame Royal, Monsieur Bayrou, Madame Jean Buffet, ou tout. Bon. Mais à un moment donné, il faut essayer de se mettre à penser ce qui se passe. Et il se passe quelque chose de très important que j'appelais tout à l'heure un décrochage. Je pense qu'il va y avoir une terrible gueule de bois de ce qui est en train de se passer.
Alors je vais vous interrompre, Bernard Stiegler, on va faire une pause musicale. Ensuite, je laisserai la parole à Arnaud Vivian, qui lui aussi a regardé ce premier tour avec attention. Mais avant, vous savez, Bernard Stiegler, depuis quelques semaines maintenant, nous nous amusons, depuis les déclarations de Madame Royal, d'ailleurs, à propos du drapeau et de l'hymne national, eh bien, on passe une Marseillaise par émission, et on en avait oublié une, et merci à Francis Marmande de l'avoir écrit dans Le Monde, c'était à la Fondation MAG et c'était le 27 juillet, voilà, 1970. C'était Albert Heller qui a donné sa version de la Marseillaise. Ça dure 7 minutes et quelques, alors si je la passe en entier, on finit pas l'année. Donc les fans de Albert Heller...
C'est assez pris, hein.
Les fans de Albert Heller...
Il y a les femmes libres et puis il y a les musiques libres.
Voilà, ne m'en voudront pas, on va pas passer les 7 minutes 10, ce qui est naturellement 7 minutes 29, ce qui est naturellement une honte, mais quand même une très grosse bouffée de cette Marseillaise revue et corrigée par Albert Heller. Voilà, c'était pour vous, Bernard Stiegler, donc cette Marseillaise d'Albert Heller. Et puis, ça sera naturellement la dernière, parce qu'après ça, je vois pas comment on pourrait trouver mieux. Ce sont les nuits de la Fondation MAG. C'était le 27 juillet 1970 à Saint-Paul. Et donc, c'est le disque du live de Albert Heller. On va laisser la parole à Arnaud Vivian et ensuite, on retrouvera Bernard Stiegler.
C'est la bande à Bono sur France Inter.
Hey, this is not a test, this is rock and roll.
Mes chers compatriotes, pour ne pas dire le contraire, ma chère bande à Bono, pour ne pas dire YouTube.
Alors, pour commencer, si vous me permettez, les compliments d'usage. J'aime passionnément la France, car la France, elle l'a montré encore hier, est passionnante, elle est passionnée, et voire même parfois, elle est passionnelle. Une fois encore, ce pays aura montré au monde entier, qui s'intéresse lui aussi passionnément pour cette élection présidentielle française, que la France était un grand pays politique, peut-être le plus grand au monde, c'est comme ça. C'est dans notre identité nationale, c'est peut-être même dans nos gènes, comme dirait Nicolas Sarkozy. La France est un pays qui bouge. Elle ne tombe pas, contrairement à ce que pense un autre Nicolas. Elle dispose même au contraire d'une énergie pour le moins durable, pour parodier encore un autre Nicolas. Décidément, c'est la Saint-Nicolas, c'est Noël au Chardon. La France, mes chers compatriotes, n'est pas vieille. Elle n'est pas un gambe. Elle a prouvé qu'elle se déplaçait et qu'elle avait toute sa tête et que de toute évidence, elle avait un gros besoin à faire d'urgence au point de mal supporter de faire la queue, s'exprimer. Mais seulement voilà. Voilà. Depuis ce matin, c'est redevenu la confusion totale. Hier, dans ce pays, tout le monde parlait. Ce dimanche a été magnifique partout. Vraiment, j'ai vu des choses magnifique dans cette ville, à Paris, que je n'avais jamais vu autre. Il faisait très très beau, il y avait une ambiance formidable. Mais aujourd'hui, tout le monde compte. Et sur ses doigts. Et un, et deux, et trois. Et 3 millions de voix d'avance. Toujours ce vieux rythme ternaire, celui de la valse hésitation. Une danse pour Simone Veil, ça. Alors que la France, mes chers compatriotes, est jeune, et qu'elle rêve de danser sur un rythme binaire. Or, hier soir, ça tombait bien. Les plus doctes de nos politologues, et Dieu sait si ce pays en compte, nous ont pesamment expliqué qu'on était revenu au binaire, à la bipolarisation, au bon clivage gauche-droite. C'était formidable. Mais voilà, ce matin, patatras, on découvre qu'il existe un sarkozysme de gauche, comme une espèce de bouture spontanée, une bipolarisation de bipolarisation, si vous voulez. Un peu comme si le sarkozysme était un organisme vivant, protéiforme. Ça aussi, ça doit être génétique. Et on découvre qu'il y a un sarkozysme de gauche, en qui? En la personne de Monsieur Besson. Mais qui connaît Monsieur Besson, enfin?
Philippe?
Est-ce que personne le connaît, ou est-ce que tout le monde le connaît? En tout cas, à ce compte-là, on n'a plus envie de le connaître. Moi, en tout cas, je n'ai plus envie de le connaître. Ce type a trop regardé mon nom et personne. Je ne sais pas bien aujourd'hui. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, il se vend comme des petits pains des manuels de traîtrise. Mais tout de même quand même, Monsieur
Son
Besson.
Éditeur a eu une autre expression, Arnaud, hein, vous savez.
Non, je ne sais pas.
Ah ben, le monsieur de chez Grasset a dit que le livre de Monsieur Besson Éric Besson se vendait comme des sacs de riz au Sahel.
Oui,
élégant.
Voilà, voilà.
C'est une information. Poursuivez, Arnaud.
Voilà, donc j'en étais au manuel de traîtrise et je me disais que même Jean-Louis Borloo est plus discret, puisqu'il a encore réaffirmé son nouveau réattachement à François Bayrou. Très belle histoire d'amour, ça, entre deux, et pleine de rebondissements de jour en jour, ma foi. Bref, hier, en un jour qui était encore une finale, est devenu aujourd'hui le jour du duel. Vous avez vu, dans tous les journaux, on parle de ça. Du duel, le combat. Mais est-ce que c'est un duel au premier sang ou pas? Est-ce que c'est un combat mortel ou pas? Est-ce qu'il va être digne, mais mortel? Ou mortel, mais digne? Et pourquoi pas un combat de titans pendant qu'on y est? CV contre CV, compétence contre compétence, c'est le moment de le dire. Et sexe contre sexe, devant le peuple, transformé en DRH. Comble d'ironie, il s'agit d'un duel avec un arbitre. Peut-être même deux d'ailleurs. C'est toujours mieux, hein. Alors que même Franck Anézé sait que dans un duel, il n'y a que des témoins, qu'il n'y a pas d'arbitre, ça c'est pour les finales et il connaît très bien les finales, que dans les duels, il n'y a que des témoins à qui il ne peut arriver que le pire pour un témoin, devenir gênant. Mes chers compatriotes, la France veut un débat d'idées. Elle réclame ce débat. Elle veut un débat passionnant. Elle veut un débat avec, évidemment, l'égalité du temps de parole. Bien évidemment, c'est la condition sine qua non de la démocratie, comme chacun le sait. Mais aussi la liberté de parole, et bien sûr, si possible, si ce n'est pas trop exigé, la parole fraternelle. Mes chers compatriotes, hier, la France s'est exprimée. À dire vrai, nos plus doctes politologues ne savent pas encore ce qu'elle a bien voulu pouvoir dire. Ils sont notamment arrêtés, comme des chiens,
sur un étonnant hiéroglyphe datant approximativement de la 4e République avant J.C. Le vote Bérou. Ils ne savent pas encore exactement ce que ça veut dire. Les avis divergent. Mais, l'assemblée des plus doctes politologues, y compris ceux qui n'ont pas de titre, c'est qu'hier, la France s'est exprimée dans une langue, à la fois mathématique et littéraire, presque platonicienne, vous voyez, mais qui a été clairement identifiée par d'autres experts comme étant, à proprement parler, la langue française. Bonne nuit la France.
Merci Arnaud Vivian. Nous sommes avec Bernard Stiegler à propos de ce livre, donc il a co-signé avec Marc Crépon, de la démocratie participative. C'est chez Mille et une nuits. Fondements et limites, c'est le sous-titre. Alors pour reprendre la dernière partie du papier d'Arnaud, Bernard Stiegler, c'est vrai, on le lit partout, il le dit, mais tous les éditorialistes le disent. La France donc réclamerait à corps et à cri un débat d'idées pour ce second tour. Est-ce que vous pensez qu'il a lieu, qu'il va avoir lieu?
J'espère qu'il aura lieu. Moi j'essaie toujours de faire crédit à l'avenir et aux personnes. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'il aura lieu.
Et en même temps, vous parlez de décrochage.
J'en doute, en effet.
Alors, qu'est-ce que c'est ce décrochage, Bernard Stiegler?
Si vous voulez, ce que je crois, c'est que, d'abord, pourquoi est-ce que il y a cette souffrance, en effet, dont on parle tellement? C'est parce que les Français, et les Européens en général, et même les Occidentaux, sont en train de vivre un phénomène qui leur échappe complètement, qui est le fait que la modernisation est en train de se produire bien au-delà de l'Europe, bien au-delà des États-Unis, dans le monde entier, et cette modernisation est en train de se produire sans modernité. La modernisation, qui est un concept qui est né en Europe, aux alentours du XVIe siècle, après la conquête de l'Amérique, est un processus qui s'est développé, qui a conduit à la révolution industrielle et qui était accompagné par un discours de la modernité, les temps modernes, la philosophie moderne, l'art moderne, etc., etc. La politique moderne, la démocratie moderne.
Le cinéma moderne.
Je
me tourne vers Alain Giraudy.
Mais aujourd'hui, cette modernisation, elle se développe dans le monde entier sans cette modernité. Tout à fait indépendamment d'elle. Et le monde occidental est dans un phénomène de panique. Deuxièmement, le système qui est exporté avec cette modernisation dans le monde entier, qui se produit maintenant en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, etc., etc., nous le savons, est un système qui n'est pas viable. Est un système autodestructeur. Il va se détruire lui-même puisqu'il repose sur des fondements systémiques qu'il est en train d'épuiser. Les ressources pétrolifères, les grands équilibres naturels, la démographie, etc., etc. Troisièmement, c'est un système qui repose sur l'exploitation systématique du désir des consommateurs, mais qui l'exploite en le détruisant. C'est-à-dire la condition pour exploiter le désir des enfants, par exemple, c'est de détruire leur rapport aux parents. Et détruire le rapport aux parents des enfants, c'est détruire leur désir. C'est donc libérer leur pulsion. À partir de là, on s'en prend à ces enfants en disant, faut les foutre en tôle, faut leur mettre un militaire derrière, il faut, etc. Mais ça ne sert absolument à rien. Contre la pulsion, vous ne pouvez rien. L'affect, quand il est produit sous forme d'un désir social, vous pouvez vous adresser à lui. Vous pouvez dire, mon petit, t'es mon fils, tu devrais quand même me respecter un petit peu, ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez vous adresser à l'affect quand il est socialisé. À la pulsion, vous n'y pouvez absolument rien. La pulsion, c'est animal. Et c'est du court terme. Ça ne vit que dans le court terme. Alors, la grande question qui se pose, s'il devait y avoir un débat d'idées qui aille vraiment au bout du problème, il faudrait discuter sur le modèle industriel dans lequel nous vivons. Et ça, c'est ce dont il n'a pas été du tout question dans cette campagne.
Il y a la question du libéralisme?
Non. La question du libéralisme, c'est une question, disons, politique. C'est une option idéologique sur l'organisation de l'économie, et qui se traduit par des mesures politiques. Je parle du modèle industriel. Je pense que nous vivons dans un modèle industriel qui est dépassé. Et que ce modèle industriel, qui consiste essentiellement à transformer de la matière en CO2, en gros, ça sert à ça, hein, ce modèle industriel, c'est un modèle industriel dont on sait qu'il conduit dans le mur. Et tout le monde le sait. Maintenant, n'importe quel agriculteur, ouvrier, médecin, juriste, tout ce que vous... N'importe qui sait ça. On n'est pas forcément d'accord sur les causes, on n'est pas forcément d'accord sur la gravité du phénomène, mais tout le monde sait ça. Parce qu'il y a eu le rapport Stern, parce qu'il y a eu les spécialistes du climat qui se sont réunis, parce que... Et Et René Passet dit ça depuis 25 ans. Hein. Il a écrit un livre très important qui s'appelle « L'économique et le vivant » où il montrait ça depuis très longtemps. Il appelait ça « Le passage aux limites ». Tout le monde le sait. Mais il n'y a pas un politique qui... Et c'est pas Nicolas Hulot, excusez-moi, avec son pacte écologique qui apporte en quoi que ce soit... Qui traite le problème au fond, parce que le problème c'est pas de dire il faut culpabiliser les consommateurs.
Vous voulez dire que en fait on va droit dans le mur et personne ne grimpe sur les freins. C'est ça que vous voulez vous expliquer?
Mais d'abord personne n'essaye de regarder la route pour commencer. Il s'agit pas de grimper sur les freins, il s'agit de commencer par regarder la route. Personne ne veut le regarder. Pourquoi? Parce qu'on dit on n'y peut rien. On dit on n'y peut rien parce qu'on se dit Mercedes-Benz n'acceptera jamais de remettre en cause son système. Parce que, on dit, les Français n'accepteront jamais de diminuer leur consommation de ceci, de cela. Mais les Français, leur comportement, par quoi est-ce qu'il est produit? Par le marketing, par la télévision, par TF1, par Martin Bouygues. Donc, il y a tout à fait la possibilité de jouer là-dessus. Il y a des tas de gens qui ont voté pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, souvent pour les mêmes raisons. En se disant, voilà, je vois les choses plutôt à gauche ou je vois les choses plutôt à droite, mais souvent pour les mêmes raisons. En se disant, je vais enfin trouver le moyen de contrôler ce processus pulsionnel. Mais pas du tout, ils ne trouveront jamais. La seule possibilité de changer cette situation, c'est de produire une nouvelle intelligence collective, c'est de produire un nouveau désir sur un nouveau modèle industriel.
Bernard Stiegler, il n'y a pas qu'une pulsion de mort, il y a aussi une pulsion de vie. Pourquoi est-ce que cette pulsion...
Mais la pulsion, c'est la pulsion, qu'elle soit de mort ou de vie, c'est de toute façon de la pulsion. Et ce qui est important, la pulsion de vie, bah, qu'est-ce que c'est? C'est la sexualité, la pulsion de vie. Hein, d'abord, bon, bah, le viol, c'est de la pulsion de vie. Eh oui. Mais le problème, c'est que ce avec quoi il faut faire... Nicolas Sarkozy en parle dans son dernier livre. Moi, je lis tous les bouquins de Nicolas Sarkozy. Hein, ils sont très intéressants. Mm-hmm. Toujours très intéressants.
Comme vous lisez attentivement le blog de Ségolène Royal.
Je lis le blog de Madame Royal. J'ai aussi lu son dernier livre. J'ai aussi lu les bouquins de François Bayrou. Je trouve tout ça très, très important et intéressant. Mais pourquoi est-ce que je parle de Monsieur Sarkozy? Il parle de l'amour, Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il dit dans ce livre, « Ah, mais ce qui compte, c'est l'amour, c'est pas les gènes. » Alors c'est bizarre, pourquoi il écrit ça dans son livre et il ne dit pas la même chose quand il parle de la pédophilie? Ça c'est très bizarre. Bon, des fois je me dis, mais qui écrit ces livres? Est-ce que c'est Monsieur Sarkozy?
Oulala, des soupçons!
Alors, soupçons. En même temps, Bernard Stiegler, nous sommes dans une drôle de situation, c'est-à-dire que tout le monde s'agite en disant un débat d'idées, et hier, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'écouter à la radio ou de regarder à la télévision la soirée électorale, mais tout le monde répétait, attention, nous sommes face à deux projets radicalement différents. Les choix vont être fondamentaux. Nous ne voulons pas du tout la même chose. Ce sont deux types de sociétés très différents. Et de façon assez étrange, me semble-t-il, personne n'allait plus loin dans l'explication. C'est-à-dire que personne ne disait qu'est-ce qu'il y avait dans ces choix sociétés, dans ces choix politiques.
Ben effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas de choix. Ça ne veut pas dire, comprenez-moi bien, je suis pas en train de dire que c'est la même chose de voter pour Nicolas Sarkozy ou Madame Royal. Hein. C'est pas du tout ce que je pense. Pas du tout, du tout. On n'est pas entre la peste et le choléra, mais entre la grippe et la rage. Donc, il faut pas... bon, c'est pas la même chose. Mais, quoi qu'il en soit, tout le problème est que cette campagne n'a pas cessé d'exprimer les symptômes d'un très grand mal-être, donc des symptômes du réel, mais elle ne fait que parler des symptômes, et elle ne fait qu'exploiter... Jamais elle ne commence à aborder le problème de la maladie et des remèdes éventuellement qu'on pourrait apporter à cette maladie. Le problème, il n'est pas... c'est pas des problèmes de sécurité, c'est même pas des problèmes de chômage. Ça ne sert à rien de parler de problèmes de chômage si on ne change pas les modèles de production, les modèles d'activité économique. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela? En ce moment, je recommande à tous mes amis de lire un livre. Malheureusement, on ne le trouve plus que chez les bouquinistes parce que l'éditeur qui l'a publié a fait faillite, je crois. C'est l'édition Exil. C'est un livre d'un philosophe finlandais qui s'appelle Pekka Immonen. Et ce livre s'appelle « L'éthique hacker ». Et il montre que ce qu'on appelle les hackers, c'est-à-dire au départ les passionnés d'informatique. Mmh. Mais chez lui, hacker, ça veut dire un passionné en général. Par exemple,
qui sont devenus les pirates informatiques. Ensuite,
ils sont hackers, c'est un pirate. Des transgresseurs, autrement dit. Mmh. Albert Heller, c'est un hacker, c'est un passionné de jazz. Le passionné, en règle générale, c'est un hacker, pour Pekka Immonen. Il dit « L'économie de demain est là, et il a raison ». Je crois absolument qu'il a raison. Moi, je dis aussi des choses comme ça depuis des années. Je pense qu'il est en train de se développer en ce moment sur Internet des pratiques économiques tout à fait nouvelle, où on dépasse ce que j'évoquais dans la première partie de l'émission, à savoir la dissociation des milieux symboliques, où on reproduit l'association. Dans le monde du logiciel libre, il n'y a pas des consommateurs d'un côté et des producteurs de l'autre. Tout le monde contribue à l'individuation des logiciels, c'est-à-dire à leur évolution, participe véritablement. Autrement dit, le problème de la participation, c'est pas un problème de participation simplement démocratique, mais de participation économique. Il faut totalement changer l'organisation industrielle du travail qui reposait sur l'opposition des producteurs et des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde des réseaux. C'est là que les mômes sont, d'ailleurs. Hein, c'est ça qui les intéresse. Bon. Et c'est là qu'ils trouvent véritablement de la passion, et pas simplement de l'affect pulsionnel, mais véritablement de l'investissement individuel et collectif. Et ça, c'est un continent économique nouveau qui est en train de se développer. Or, ça ne produit pas de CO2. Ça produit de l'intelligence, ça produit du désir, ça produit de la filia, c'est-à-dire de l'affectio sociétative, de la relation entre les individus.
De l'amitié.
De l'amitié. Ça nécessite des réseaux à haut débit, mais les réseaux à haut débit, ça ne pollue pas. Bon. Donc il y a quelque chose là. Comment se fait-il que Bérou en parle un tout petit peu dans ses, vous allez dire, oui, Bérou, Stigler n'arrête pas de parler. Ben oui, il y a deux. Ben oui, j'ai voté Bérou.
Ah voilà,
il y a deux, sur ces 20 propositions, il y en a deux qui concernent ces problèmes. Et je pense qu'il est le seul à vraiment poser cette question. Mais il la pose pas du tout suffisamment. En tout état de cause, je pense que s'il y a un débat d'idées demain qui conduit à quelque chose, c'est ça et l'Europe. Parce que, moi, j'ai voté non aussi. Hein,
pour quelle raison ? Pour quelle raison exactement ?
Parce que je considérais que l'Europe qui était proposée n'était pas une Europe. C'était simplement une extension de la possibilité du développement du marché. Et je pense que c'est une erreur. Et je pense que cette Europe qu'on nous proposait dans cette constitution ne se donnait absolument pas les moyens d'avoir un pilotage industriel et économique.
Qui est celle défendue par François Bayrou.
Absolument. Absolument. Alors,
vous y voyez contradiction ?
Non mais, bien entendu qu'il y voit contradiction.
Mais ça donne matière à penser.
Lui a voté oui quand même. Il faut rappeler
que François
Bayrou.
Oui, c'est ce que je disais. Oui, c'est ça. Mais moi, je suis pas du tout un militant de l'UDF. Non, simplement, à un moment donné, voilà, je pense qu'il est le seul à avoir posé un certain nombre de questions et en plus d'avoir été très digne dans cette campagne, très digne. Et ça, c'est très important parce qu'un candidat à la présidence de la République doit être digne. C'est très très important.
C'est étrange quand même qu'on ait une révolution qui vienne du centre. Parce que finalement, dans ce que vous dites, c'est tous les éléments de révolution réelle, selon vous, viendraient de ces deux points parmi les 20 du programme de François Bayrou.
De toute façon, la révolution, elle viendra de la société. Elle viendra pas des représentants politiques. S'il y a révolution, et d'ailleurs, je sais pas s'il faut employer ce mot de révolution. Mais je pense qu'en tout cas, il y a une rupture. Bon, le mot était beaucoup employé. Une rupture qui est en cours. Je pense que tout le monde il participe d'une manière ou d'une autre, je veux dire, à l'énonciation de la question de la rupture. Il se trouve que François Bayrou, à un moment donné, a, je crois, posé un peu les bonnes questions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je pense que la révolution viendra ou que la rupture viendra de François Bayrou. Je pense qu'elle viendra de la société.
Mais pourquoi est-ce que vous craignez tellement cette forme de télécratie dans ces cas-là, Bernard Stiegler, puisque on le sait très bien que Internet, à moyen terme, est en train de prendre vraiment le pouvoir sur la télévision.
Oui,
donc
mais
en
Internet
réalité,
peut être
il n'y a pas de
tout
problème.
À fait télécratique. Je veux dire, c'est l'objet d'un combat. Internet peut être l'augmentation encore bien plus grave de ce qu'est la télécratie actuelle.
Ça a déjà commencé.
Ça a déjà commencé. D'ailleurs, il y a de très bons papiers qui sortent en ce moment sur ce sujet, parce que c'est un sujet de très grande actualité, puisqu'il y a des rendez-vous importants, des échéances importantes sur le contrôle des adresses électroniques, etc. Et donc, il faut que l'Europe ait une politique de l'Internet, mais pas simplement l'Internet, de toutes ces technologies qui constituent ce qu'on appelle une troisième révolution industrielle.
Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, vous êtes aussi ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, puisque vous êtes directeur de département au Centre Georges Pompidou, donc vous êtes aussi un homme de culture. Est-ce que ça vous a étonné, ça a été souligné beaucoup par les commentateurs, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu venir grand-chose, que ma foi, les histoires de culture sont passées totalement à l'as dans cette campagne, à peu de choses près. Je pourrais aussi poser la question à Alain Guiraud, qui est cinéaste, et par ailleurs vous rappelez que Ségolène Royal en 1989, c'est-à-dire assez tôt après l'irruption de la télévision privée par exemple en France, avait écrit un pamphlet, un véritable pamphlet qui s'appelait le ras-le-bol des bébés zappeurs contre une certaine forme de télévision qui correspond exactement à ce que vous décrivez. Est-ce que c'est là aussi d'où vient votre déception, absence de la culture dans les programmes et absence de votre forme de critique radicale de la télévision?
Oui, tout à fait. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans La Télécratie contre la démocratie et surtout dans Réenchanter le monde, tout le monde dit aujourd'hui, tous les gens en tout cas qui observent de près la vie économique et industrielle disent que demain, la société doit produire plus de connaissances, plus de créativité, plus d'intelligence, etc., etc. Et en même temps, ce qu'on voit se développer, ce sont des industries de services et des médias de masse qui détruisent progressivement tout cela.
Oui, mais quand vous voyez phénomène comme Wikipédia, par exemple, Bernard Stiegler, vous voyez bien quand même là la force d'un projet justement
alternatif,
basé sur une communauté de gens passionnés, de hackers. Justement.
Mais c'est de ça dont je parle. Mais comment se fait-il
c'est
qu'on
ce
n'ait
type
pas...
de communauté d'amateurs comment que vous appelez de vos voeux.
Et comment se fait-il qu'on ne bâtisse pas une politique culturelle là-dessus? Alors, il se trouve qu'au centre Georges Pompidou, à l'Institut de Recherche et d'Innovation, dont je suis fondateur, précisément nous travaillons sur ce sujet. Bon, mais comment se fait-il que ce genre de sujet n'ait pas fait débat dans cette campagne, ne fasse pas débat dans cette campagne? Bah, d'abord parce que ces politiques ne s'y intéressent pas. Ils ne s'intéressent qu'aux médias qui leur servent et qui restent aujourd'hui les médias de masse de l'élection. La télévision et la Ve République, ça a commencé en même temps. Ce sont des gens qui sont nés dans ce monde de la télévision et des médias de masse. Ils ne voient pas venir ce qui est en train de se produire avec Internet. Moi, Wikipédia, bien entendu, je trouve ça formidable, moi, Wikipédia. Absolument formidable. Et il est en train de se produire là quelque chose de vraiment de... Alors là, pour le coup, révolutionnaire. Mais en Europe, il n'y a aucune réflexion là-dessus. Ça vient des États-Unis, ça vient de San Francisco, ça vient de Corée, ça vient maintenant du Japon, de Chine. Mais ici, c'est encéphalogramme plat sur ce sujet. Et c'est extrêmement grave, parce qu'on est en train de se désindustrialiser sur ces technologies industrielles de l'intellect. Alors qu'on sait très bien que c'est là que demain se fera la survie économique de l'Europe. Si l'Europe n'arrive pas à développer une grande intelligence industrielle, à se donner des outils, ce que dans notre association Ars Industrialis, nous appelons des technologies de l'esprit largement diffusées, et de reconstituer de l'intelligence collective, l'Europe sera laminée. C'est ça l'enjeu de cette élection.
C'est par exemple le logiciel libre, par exemple, c'est un combat important. On sait que Michel Rocard a fait un dossier sur le numérique pour Ségolène Royal. Je ne sais pas si vous l'avez lu, vous qui vous passionnez pour ces nouvelles technologies. Moi pas, je dois bien avouer. Mais il a travailler sur cette question numérique, on sait que c'est un grand défenseur du logiciel libre.
Avec mon ami Philippe Aigrin, qui est...
Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel libre, en deux mots?
Un logiciel libre, c'est un logiciel dont les codes sources sont accessibles à n'importe qui. Mmh. Et que...
C'est-à-dire qu'on n'a pas à l'acheter ni à le voler.
On n'a pas à l'acheter, on n'a pas à le voler. En plus, on peut le transformer, on peut proposer à la communauté de ceux qui l'utilisent les transformations.
De l'améliorer.
Et donc, on participe intimement à son évolution. C'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental pour demain, cette économie-là.
Oui, Alain Guiraudy, en s'approchant du
micro. Tout ça passe quand même par de la politique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas la modernisation. Enfin, il faut aussi que le cadre politique offre une possibilité de développement de choses, quoi. Tout à l'heure, vous disiez que personne ne parlait d'autre chose. Alors, Arnaud Vivien a fait allusion au libéralisme. Alors, peut-être que vous situez pas les choses sur ce mode-là. Mais quand même, le libéralisme, enfin, en tout cas, le capitalisme, moi, je pense pas qu'effectivement, il peut s'éteindre mort de sa belle mort d'une façon naturelle. Je pense qu'il peut durer très longtemps si on n'y met pas fin à un jour, quoi. Et que, effectivement, comme modèle de société, le capitalisme étouffe quand même tout ce qui pourrait émerger de neuf, non? Tout comme à la libération, au moment de la Révolution française, s'il y a eu la Révolution bourgeoise, c'est aussi parce que politiquement, il n'y avait pas un cadre en France qui offrait une révolution, qui offrait un cadre pour une vraie révolution industrielle, quoi.
Vous savez, moi j'ai combattu le capitalisme longtemps. Je suis allé même très très loin dans ce combat, avec une référence à Marx. Bon, aujourd'hui, je crois pas du tout que le capitalisme est éternel, du tout, mais je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Et que aujourd'hui la question c'est d'inventer une nouvelle époque du capitalisme, ce que j'appelle le troisième esprit du capitalisme. Le problème est aujourd'hui que le capitalisme a perdu son esprit, donc il est devenu pulsionnel.
Et il est en train de s'autodétruire.
Il est en train de s'autodétruire. Et que donc le problème, c'est surtout pas de le détruire, c'est de l'empêcher de se détruire parce qu'il nous détruira avec lui. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que les problèmes sont pas simplement industriels et économiques. Il y a évidemment des problèmes politiques. Si je citais Pekka Himanen tout à l'heure, ce philosophe finlandais, qui est un type tout à fait étonnant, il a 31 ans, il est extrêmement jeune, il a écrit ce bouquin à 27 ans, c'est parce que il se réfère au livre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et il reprend la génétique au sens historique du terme. Là, il fait la genèse, il refait la genèse du capitalisme. Il dit, nous entrons dans un nouveau capitalisme qui ne repose plus sur ce que...
Je me lance au risque de dire une bêtise. La thèse de Weber, c'était « Enrichissons-nous parce que ça fait plaisir à Dieu ».
Alors ça, c'était la thèse de...
en un mot, hein.
C'était la thèse de Benjamin Franklin, que commente, et de Calvin, que commente Max Weber, et en disant, c'est ce qui a donné l'éthique de la besogne. C'est-à-dire, c'est ce qui mettait le travail comme souffrance au cœur de la
société voilà.
À Dieu.
Nous y revoilà.
Et, tout à fait
et du capitalisme. À la malédiction du travail.
Et là, Immanuel dit, mais en fait, non, il faut aujourd'hui développer une éthique de la passion. Et ça, c'est très intéressant. Parce que on est aujourd'hui, qu'est-ce qui domine? On dit le capitalisme est culturel à 40% de son chiffre d'affaires. Si on met les lanceurs de fusées, les satellites, les téléphones portables, tous les supports industriels. Bon. La culture, c'est 40% du business mondial. Le capitalisme est culturel. Les technologies qui se développent aujourd'hui sont des technologies de l'intellect. Il est évident que l'avenir est là. Et que ce n'est plus dans la transformation de la matière, mais dans la transformation de l'esprit.
La Mastigler, c'est une révolution culturelle, vous pensez?
Ah, c'est bien entendu une révolution culturelle. C'est une révolution industrielle. Et c'est peut-être même une révolution anthropologique.
Merci beaucoup, Bernard Stiegler, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce livre, De la démocratie participative, Fondements et limites. C'est publié chez Mille et une nuits. Ça vaut 10 euros. Bernard Stiegler est l'auteur de livres plus difficiles, mais je pense que vous avez voulu celui-là le plus clair possible. On va écouter Elista, Les Hommes Ordinaires, et ensuite Pochon nous dira où il en est.
Par terre, il répète-t-il de la chair pour une femme, un adultère, ça se dit que de toute manière le bonheur est un mystère. Les hommes ordinaires attirent des hommes ordinaires à la destinée singulière, des étoiles sous les paupières, il prévoit moins qu'il espère souvent.
Les hommes ordinaires, Hervé Pochon dans ses œuvres, Un jour de premier tour.
Bon, le maire de la Fraissinose, de la toute petite commune de la Fraissinose dans les environs de Gap, est heureux d'accueillir la bande à Bono.
Et le son de Pochon.
Et le son de Pochon. Ouais.
La bande à Bono.
Et si je suis dans cette petite mairie des Hautes-Alpes, c'est parce que j'y ai passé une semaine de vacances et qu'il fallait donc rentrer hier et que j'avais un reportage à faire et je me suis dit, eh bien, très bien, faisons mon feuilleton sur ce dimanche électoral.
Vous entendez, Arnaud, la valeur travail, selon Pochon.
Utile à la guerre.
Il est pas si sarkozyste, en fait.
Maintenant, la valeur travail, elle est intégrée dans ma vie. Toute ma vie est travail. Vous voyez, même le dimanche, à 7h30, je suis sur cette petite place de village avec la mairie, l'école et l'église. C'est pas un cliché, c'est la réalité. Et je suis en compagnie de monsieur le maire qui me définit sa commune.
On est une commune où il y a 500 habitants et 1100 bovins.
Alors voilà, vous allez me dire, ils vont tous voter comme des veaux. Eh bien non, ils votent...
Je vous aurais pas dit ça.
Non,
c'est pas poli.
Non, c'est vrai. Alors pour vous dire, en 2002, eh bien, Jacques Chirac a réalisé 18% des voix, Le Pen 16% et Jospin 9%. Donc ça, c'était pour 2002. Aujourd'hui, l'isoloir est installé. Je suis assis juste à côté et j'attends. On discute avec monsieur le maire.
Ah ben, l'isoloir, on se l'achète. Hein. Mais bon, il y a une petite subvention de la préfecture qui est donnée. Mais comme nous, on est une petite commune et qu'on est une commune économe, l'isoloir, il est vieux. Hein.
Ça coûte combien, un isoloir?
Je sais pas. Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Hein. Et s'il est cassé, on le répare. Regardez, il manque la tringle, on a mis un fil électrique.
Eh oui, la démocratie, on en est là, avec un petit fil électrique qui soutient le rideau. Si ça tient tout le dimanche, ça sera bien. Et il y a l'urne qui est là, j'ai vérifié. Elle est vide.
Elle est fermée à clé et les deux clés sont données, une au maire et une au premier adjoint. Et ce soir, à l'ouverture, chacun redonnera sa clé.
J'ai pas bien compris pourquoi le maire vous donne la clé et vous le premier adjoint.
Eh bien, parce qu'il y a deux clés. Donc, pour pas qu'il y ait de tricherie, chacun a un jeu de clés différent.
Comme ça, il y en a deux qui peuvent tricher au lieu qu'un seul plus.
Il faut que les deux trichent en même temps à ce moment-là.
Et voilà, vous avez compris. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Et donc, c'était Jean-Paul Gaillard, le premier adjoint, et le maire, c'est Jean-Pierre Coiret. C'est une mairie UMP, je vous le dis. Comme ça, les choses sont claires.
On vous retrouve.
C'est pour ça qu'ils ont des noms composés, des prénoms composés. C'est tous des Jean-Claude, des Jean-Pierre.
Vous pensez? Je ferai mon prochain feuilleton sur cette question-là.
J'espère bien.
Et je m'intéresserai au Jean-Claude aussi, le fameux Jean-Claude de Panique, comment j'en parle. Mais là, discutons avec le maire. Est-ce qu'il aime ces petits dimanches électoraux?
C'est une journée très importante parce qu'on rencontre tous les gens de la commune. Il y a souvent un débat sur la place communale où chacun raconte le ruisseau débordé. On fait un peu le tour des problèmes. Puis il y a des choses qui sont remarquables. Le premier électeur qui rentre toujours dans la mairie, le premier, c'est toujours le même.
Et voilà. Le premier électeur, évidemment, il est 8h, on ouvre le bureau, les cloches sonnent et Amédée Vaugel se présente.
Je vous mets la carte d'électeur.
Merci.
Voilà. Et c'est toujours vous qui venez le premier voter, m'a dit monsieur le maire.
Mais oui, parce que je repars.
Vous repartez.
Ma femme, elle vote à Sénas et on part pour Sénas maintenant.
Je peux rentrer dans l'isoloir avec vous?
Oh non.
Bon, j'ai essayé, quoi. Vous comprenez, je suis un journaliste d'investigation. Si je peux voir un petit peu ce qu'il va mettre dans son enveloppe. Et Sénat, je vous le dis, c'est dans les Bouches du Rhône. Ah, arrive un nouvel électeur.
À voter.
Vous êtes venu voter en vélo, monsieur?
Non, pas en vélo.
Ah bon? Vous avez une tenue pourtant sportive.
Ben oui. Mais ah là, bon. Justement, je pars en montagne, donc avec les petits et tout. Donc, on va aller voir les bouquetins dans la vallée du Champoléon.
Ah, c'est pour ça que vous êtes venu si tôt?
Voilà.
Je vous demandais pour qui vous avez voté?
Ah oui, il n'y a pas de cachotterie. Moi, pour José Boivet. Mais pour, justement, protéger la nature. Et puis, pour que ça change un peu, pour marquer le coup sur tout ce qui se passe, pour protéger notre mère nourricière. Et lui, José Boivet, il donne de sa personne. Donc, j'ai une dette. Et voilà, je viens de lui donner, rembourser une part de ma dette. Voilà.
On tenait Guiraudy pour Buffet.
On a voilà. Celui qui a voté José Bové dans les Hautes-Alpes. Mais là, je me pose la question, mais comment va se passer le comptage? Je vais voir l'urne qui est transparente, c'est très pratique, c'est pas comme le vote électronique, effectivement, on sait pas où on en est. Là, je vois qu'il y a 4 bulletins et je regarde sur le compteur et il y a marqué 4. Alors je me dis, oui, j'ai entendu que 2 électeurs. Oui, parce que le maire et le premier adjoint, bah, quand il y avait personne, ils ont voté aussi. Hein. Alors comme ça, c'est fait. Et après, le comptage, c'est très intéressant.
Le comptage, ben c'est la grande messe, quoi. Tout le monde est là autour de la table, on compte les voix, après on fait le PV et on porte les résultats à la gendarmerie. Puis après on va boire un petit coup à la préfecture. Comme ça on retrouve d'autres maires, on discute, enfin, c'est convivial.
Et voilà. Bon, il faut que vite je monte dans la voiture avec les enfants et maintenant c'est Grenoble, demain deuxième épisode à Grenoble.
Merci beaucoup Hervé Pochon, voilà, vous entendez les bips, on peut pas mieux tomber. Vous écoutez France Inter, il est 18h. le programme du 18-20 avec